France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite de notre série de cette semaine consacrée aux philosophies asiatiques, nous creusons ce matin la pensée bouddhiste et son devenir au Tibet à partir du 7e siècle après Jésus-Christ. Le bouddhisme est né en Inde. Nous en avons parlé dans notre premier épisode consacré à la philosophie indienne au sein de cette série sur les philosophies asiatiques. Le Bouddha Shakyamuni, cet être éveillé, c'est le sens du mot Bouddha, pur et parfait, serait né dans l'actuel Népal au 6e ou 5e siècle avant Jésus-Christ et aurait fondé une communauté de moines errants, sans laisser cependant de traces écrites. Le bouddhisme vient donc d'Inde, mais au 7e siècle de notre ère, il s'est propagé au Tibet et j'interrogerai mes invités sur les conditions exactes de ce que les historiens appellent la première diffusion au Tibet jusqu'au 9e siècle, puis de la deuxième diffusion à partir du début du 11e siècle. Le bouddhisme tibétain est dit à trois étages, articulant donc plusieurs niveaux de sagesse successifs présentés comme des véhicules, c'est ça la traduction, on va en parler, des véhicules toujours plus élaborés. Mais vers où ces véhicules mènent-ils exactement? Quels textes sont issus du bouddhisme tibétain? Autant de questions au cœur de l'émission de ce matin. Bonjour Isabelle Kalinowski. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous travaillez sur l'histoire des sciences humaines et sociales, vous êtes en duplex avec nous depuis Pau, merci aux équipes d'ICI, c'est le nouveau nom de France Bleu, Béarn Bigorre. Vous êtes notamment une éminente spécialiste et traductrice du sociologue allemand Max Weber, qui s'est intéressé vivement à beaucoup de religions du monde avant de disparaître en 1920. Est-il dépassé aujourd'hui ou bien a-t-il eu quand même des intuitions confirmées désormais, au moins sur certains points? Nous en parlerons. Et bonjour Philippe Cornu.
Bonjour.
Vous êtes en studio avec nous, traducteur de tibétain, docteur en anthropologie des religions. Vous avez enseigné plus de 20 ans à l'INALCO et dans notre pays, vous êtes un des meilleurs spécialistes du bouddhisme tibétain. Merci d'avoir accepté notre invitation.
La première chose qui saute aux yeux quand on pense au mont Kailash, c'est la qualité exceptionnelle du site du point de vue géographique. Pour les bouddhistes tibétains, surtout bouddhistes mahayanistes, en particulier les bouddhistes qui suivent l'enseignement de Tantra, c'est le plus sacré des quatre demeures du Bouddha Shirisambara, appelé aussi Hiruka, dispersé à travers l'Inde, le Tibet et le Népal. De plus, pour les Tibétains, le Bouddha Shakyamuni lui-même a eu l'occasion plusieurs fois d'y aller. Beaucoup de membres de son entourage se sont rendus sur place pour pratiquer et méditer. De ce fait qu'on considère le lieu encore plus sacré, étant béni par ces grands êtres, n'est-ce pas? Béni, ça veut dire ici plutôt comme ces êtres-là qu'ils ont pratiqué sur cette place, ils ont réussi à éliminer des pensées négatives en eux-mêmes et réussi à développer les qualités, donc leur qualité spirituelle qui laissait une sorte de trace positive sur cet endroit.
Vous entendez une archive de France Culture, de l'Échappée Belle, du 17 mars 1995, qui évoque la montagne sacrée qu'on appelle Kailash, au Tibet, qui est un lieu exceptionnel. Ce mont fait 6638 mètres d'altitude. Vous le connaissez, Philippe Cornu, vous connaissez ce monastère. C'est impressionnant.
Je ne suis pas allé au mont Kailash parce qu'il est difficile d'accès. Les Chinois ne le rendent pas du tout facile d'accès. Parfois, c'est complètement fermé. Non, moi je connais le Tibet central essentiellement, autour de Lhasa, autour de Samyé, autour des grands pôles, disons, des grands monastères du Tibet central. Mais le Tibet est très vaste, hein, il fait 4 ou 5 fois le territoire français.
Oui.
Et évidemment, dans un voyage, on ne peut pas partout aller, et il y a en plus des zones interdites.
D'accord, mais ce monastère... Est-il un lieu fermé, je dirais presque de facto, parce qu'il faut monter là-haut, et si c'est le cas, est-ce que ça ne nous indique pas d'entrée de jeu dans cette émission une des différences avec le bouddhisme indien originel, c'est que c'est le développement extraordinaire au Tibet de la vie monacale. C'est inédit. Est-ce que c'est vrai, ça?
Alors oui, c'est vrai. Alors d'abord, c'est pas un monastère. Kailash, c'est vraiment la montagne. Et c'est la montagne que l'on circumambule. On circumambule autour. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les bouddhistes qui circumambulent, il y a aussi des shivaïtes. Et il y a également les Bumpo, qui sont l'autre religion du Tibet.
Parce que c'est reconnu par plusieurs religions,
oui,
ce
tout
mot,
à fait.
Pas seulement par les bouddhistes.
Tout à fait, c'est une montagne sacrée pour les 3 religions. Mais d'autre part, du point de vue monastique, effectivement, les monastères, c'est lié aussi à la géographie. C'est-à-dire que on est dans des vallées avec des montagnes. Les monastères sont souvent isolés des villages. Et ils ont donc grandi et ils ont pris une forme d'autonomie. Ce sont devenus des véritables villes monastiques à certains endroits. Mmh. Maintenant, il y a aussi des petits monastères de taille beaucoup plus modeste qui sont un peu partout au Tibet.
Et c'est bien une spécificité tibétaine. Il y a, j'imagine, des moines évidemment en Inde, mais l'ampleur de la vie monastique,
elle est très importante en effet. Mais
c'est incroyable.
Mais il y a aussi les yogis. Les yogis qui forment la communauté blanche.
Donc, alors justement, je n'ai pas bien compris tout ça. Alors, vous allez me dire ce que c'est qu'un yogi, la différence, s'il vous plaît, avec un moine tibétain. Et après, on parlera de cette figure qu'est le Dalai Lama. Je vous écoute. Déroulez, parce que c'est un peu complexe dans le détail.
Les yogis, donc, ce ne sont pas des moines. Donc, ils n'ont pas les vœux monastiques. Donc, ce sont des gens qui vivent dans leur village ou qui vivent, disons, dans leur maison, qui peuvent être mariés, mais qui ont des vœux tantriques et qui transmettent souvent familialement et également à des disciples qui sont pas forcément de leur famille et qui forment des lignées séparées, distantes, différentes en quelque sorte des lignées monastiques. Les lignées monastiques sont beaucoup plus institutionnelles.
Est-ce qu'on pourrait dire, pour avoir des références occidentales, je vous prie de m'en excuser, mais c'est un peu naturel, hein. Nous sommes dans un pays qui est marqué lui aussi par une histoire. Est-ce que c'est un peu analogue à la distinction entre les clercs et les laïcs, ou entre... c'est plutôt ça que clergé régulier, clergé séculier, parce que les yogis ne sont pas un clergé, ils sont au contact...
Alors, ils font partie d'une forme de clergé, mais qui est indépendant des monastères. Ceci dit, ils peuvent être invités quand ce sont des grands maîtres. Oui. Souvent, les grands maîtres peuvent être de ces lignées-là aussi. Ils sont invités parfois à donner des grandes transmissions, y compris dans les monastères. Donc, il y a des liens entre les deux lignées, en quelque sorte. La monastique, qui est beaucoup plus institutionnelle, avec des moines qui prennent des vœux de renoncement, et les yogis, qui ne renoncent pas véritablement, mais qui sont sur une voie de transformation. Donc ça, c'est une différence plutôt au niveau des pratiques fondamentales, mais si vous voulez, c'est quand même, ça circule. Ça circule complètement entre les deux mondes. Et beaucoup d'écoles tibétaines ont les deux aspects très équilibrés.
Alors, yogi, c'est un terme qui évoque pour nous occidentaux le yoga. J'ai là aussi besoin que vous me précisiez les choses. Le yoga est une pratique qui existe à peu près dans tout un tas de religions asiatiques, ou bien est-ce spécifique au bouddhisme? Il me semble que non, mais merci de me préciser.
Non, c'est pas du tout spécifique.
Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un yogi pour un bouddhiste?
Yoga, en tibétain, c'est neljor. Neljor, ça veut dire s'unir à quelque chose, mais dans la détente. Donc, c'est une détente de l'esprit. Donc,
c'est
ça
pas
veut
la
dire...
soumission, yoga? Je crois que c'est pour
Non, pas du tout. Il n'y a pas d'histoire de soumission. Ouais. Par contre, il y a vraiment une histoire de retrouver sa véritable nature. Sa nature qui ne peut être trouvée que dans la détente de l'esprit. Et ça, les yogis, ça veut dire que la méditation, par exemple, c'est un yoga. Vous voyez, on a une tendance à dire, il y a la méditation d'un côté, le yoga. Non, pas du tout. C'est la méditation est un yoga parmi d'autres.
Et quelle est la spécificité du yoga bouddhique? Y en a-t-il une?
Oui, bien sûr. Dans le cas du bouddhisme tibétain, ce qu'on appelle des yogas, ça va aller aussi avec des pratiques de visualisation, des pratiques de récitation de mantras, des exercices respiratoires qui permettent de contrôler les souffles, et à partir de là, de dissoudre en quelque sorte les couches ordinaires de l'esprit pour atteindre ce qu'on appelle la nature de l'esprit qui est sous-jacente à tout cet esprit agité habituel.
On va prolonger, notamment la réflexion sur les mots tantra, mantra. J'ai vraiment besoin que vous m'expliquiez tout cela. Mais je voudrais interroger un peu Isabelle Kalinowski. Max Weber est un penseur allemand, alors sociologue, c'est le qualificatif qu'il revendiquait à la fin de sa vie. Mais il a fait du droit, il a fait de l'économie, il a fait de l'histoire. Et il s'intéresse aux religions, y compris celles qui ne sont pas du tout occidentales. C'est quand même une prouesse à la fin du 19e siècle. Et il écrit en 1916 « Hindouisme et bouddhisme ». Pour lui, Isabelle Kalinowski, est-ce que vous avez aussi ce sentiment que ça correspond à quelque chose qui vraiment, vraiment est loin de la culture occidentale, sur le plan religieux ?
Alors, sur le plan religieux, certes, sur le plan économique aussi, puisque Weber entreprend son vaste chantier d'études de sociologie des religions avec une question centrale, qui est celle de savoir si on peut retrouver ailleurs qu'en Occident la configuration qui a donné naissance en Occident au capitalisme contemporain.
C'est donc ce qu'il appelle la rationalisation religieuse. Il y a de la rationalité dans les religions, explique Weber, une capacité à ordonner le monde, à s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, à nos comportements, notamment économiques. Et n'est-ce pas précisément cela, Isabelle Kalinowski, qui n'est pas centrale, d'après Weber, ni dans l'hindouisme, ni dans le bouddhisme, et surtout pas dans le bouddhisme?
Alors, ça n'est pas central au sens aussi où, justement, le bouddhisme va être principalement, comme on vient de le voir, une religion de moines et aussi de yogis, on l'a dit, mais quand même une religion qui, disons, est fondée sur la virtuosité toute particulière des pratiques de certains fidèles, par opposition à la masse des fidèles qui, eux, n'atteignent pas ce degré de virtuosité. Mmh. Et l'opposition que Weber met en place, c'est une opposition entre des religions comme le bouddhisme, où on reste dans la tension entre une minorité de virtuoses religieux et une masse qui n'atteint pas ce degré d'ascèse, et d'autre part, un courant religieux comme le puritanisme issu du protestantisme, dans lequel il y a quelque chose comme un mouvement qui va faire franchir à l'ascèse les murs des couvents et des monastères pour l'imposer en fait à tous les fidèles et entraîner de ce fait une rationalisation des comportements au-delà des murs des monastères. Donc la grande opposition que Weber construit, elle est fondée sur cette idée-là. Donc avec une insistance sur le caractère voilà de virtuosité religieuse qui est construit dans le bouddhisme.
Alors comme toujours chez Weber, il y a les analyses de la structure des croyances, mais aussi des faits et gestes de ceux qu'ils embrassent. Et dans Hindouisme et Bouddhisme, ce texte de 1916, il parle d'une véritable prouesse d'avoir réussi à créer des productions culturelles impressionnantes sur des terres peu accueillantes. Écoutez son analyse. Alors, il ne s'agit pas du tout du mont Kailash très haut, mais il s'agit du Potala, qui est le palais du Dalai Lama, situé sur une colline, dite la colline rouge, colline de Marpori. Écoutez Max Weber.
Les édifices, comme le monastère montagne du Potala à Lhasa, l'existence d'une science, y compris dans les monastères de second rang, et l'émergence d'une littérature religieuse considérable, et plus encore, l'accumulation d'œuvres d'art parfois de tout premier ordre dans ces régions de pâturage et de désert, situées généralement à plus de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, où le sol était gelé 8 mois par an et dont la population était exclusivement nomade, tout cela représente une prouesse que le bouddhisme des monastères lamaïques, avec sa stricte organisation hiérarchique et son emprise illimitée sur les laïcs, fut seul en mesure de réaliser. L'ancienne organisation militaire chinoise des corvées, d'une part, l'organisation de l'ascèse monastique lamaïque, d'autre part, introduisirent la culture dans des régions désertiques ou de pâturage. Mais rien n'annonçait de tels lieux de grandes constructions et de productions artistiques.
Sommet de raffinement et d'organisation de la vie monastique, c'est vraiment ce que dit là Max Weber, Isabelle Kalinowski, évoquant aussi bien une petite montagne comme le Potala, où il y a ce palais présidentiel impressionnant, et que des monts plus élevés. Il évoque 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, on en a parlé juste avant. Weber est impressionné par ce degré de raffinement. C'est inédit pour lui dans toute l'histoire des religions, Isabelle Kalinowski.
Alors, ça n'est pas forcément un cas unique, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui fascine le sociologue, parce que ça montre que, y compris dans des régions voilà qu'il appelle désertiques, enfin qui peuvent sembler très très loin de des centres, des grands centres de civilisation, eh bien, on trouve justement une organisation sociale extrêmement développée et des productions artistiques d'un extrême raffinement, comme vous l'avez dit. Donc pour Weber, en fait, cette tension entre la géographie, la difficulté d'accès, tout ce qui rend ces régions, disons, extrêmement complexes d'abord, et d'autre part, la complexité des constructions sociales qui ont pu et religieuses qui ont pu s'y établir, est un fait sociologiquement fascinant. Voilà, donc ça, Weber oui. le signale.
Alors, ça pose une question de fond. Philippe Cornu, vous qui êtes un grand spécialiste du bouddhisme tibétain, c'est qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? C'est-à-dire, beaucoup venaient d'Inde.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe au 7e siècle, après Jésus-Christ, au Tibet? Un empire semble se créer, si j'ai bien compris. On dit même que ce sont deux reines, épouses de rois, qui étaient tout à fait intéressées par le bouddhisme indien, qui était bouddhiste. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous nous raconter, quasi historiquement, cette première diffusion du bouddhisme indien au Tibet?
Alors, ça commence sous l'empereur, on peut parler d'empereur, hein, pour le Tibet à l'époque, parce que c'est un vaste empire. C'est le premier empire d'Asie à l'époque. Au 7e siècle, 8e siècle, c'est le point culminant. Après, évidemment, ça diminue. Mais même Chang'an, qui est la capitale chinoise, paye un tribut, en fait, aux Tibétains, pendant un long moment. Donc, cette période-là, les deux empereurs, le premier empereur, Songtsen Gampo, fait venir des textes, etc., et commence les traductions, mais c'est encore dans une dimension assez modeste. C'est surtout son arrière-petit-fils, Trisong Detsen, qui est extrêmement important au 8e siècle. Mmh. Et là, vraiment, commence réellement la première diffusion, avec l'établissement d'un grand monastère qui s'appelle Samye, qui n'est pas si loin que ça, qui est dans la vallée du Tsampo, du Brahmapoutre, pas si loin que ça de Lhasa, mais à Samye, qui va être établi par Padmasambhava, et et qui va faire venir en fait des traducteurs, et c'est les traducteurs qui vont être extrêmement importants, sponsorisés par l'empereur, et ces traducteurs vont commencer une œuvre de traduction qui, à mon avis, est absolument extraordinaire.
Donc traduit de quelle langue en quelle langue?
Du sanskrit, essentiellement, mais il y a également des textes du chinois qui ont été traduits.
Traduit en tibétain.
En tibétain, mais surtout du sanskrit, et ça représente des centaines de volumes. Par la suite, ça constituera un canon de 110 volumes, plus les commentaires indiens qui ont été traduits en tibétain, 225 volumes. Ça, c'est des aspects canoniques. Plus après, évidemment, avec les traducteurs donc qui fonctionnent en équipe, donc il y a un pandit indien qui explique les textes, etc. Il y a le traducteur et il y a des réviseurs. Donc ce sont des équipes qui travaillent et sans discontinuer pendant un siècle.
Est-ce qu'on peut dire que le bouddhisme, l'essentiel de son corpus, désormais, est en tibétain?
Oui, Et d'autant plus que il y a les aspects effectivement de trois grands véhicules du bouddhisme qui sont superposés dans le bouddhisme tibétain désormais, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle le véhicule du renoncement avec les aspects monastiques, donc tous les codes le code monastique, etc. Il y a l'aspect du Mahayana, du grand véhicule qui lui va développer la philosophie de la vacuité, mais conjointe à la compassion. C'est le véhicule de la compassion et de la vacuité, ça va ensemble. Et ensuite, par-dessus, toutes les méthodes qui font partie du Vajrayana, du grand véhicule du diamant, qui est en fait le Vajrayana, c'est-à-dire les tantras et le Dzogchen, la grande perfection.
Excusez-moi, mais voilà. Il faut vraiment tout m'expliquer. Donc, véhicule.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que les individus qui part d'un état dont nous avons parlé hier à propos de l'Inde, d'un état de souffrance, de douleur, samsara, si j'ai bien compris, c'est ça souvent le mot.
Oui, c'est le cycle des existences douloureuses.
Il cherche une voie, on dit véhicule, vers une libération.
Voilà. Et en fonction des capacités, il y a différents véhicules qui sont proposés.
Alors, quelle est la différence entre un véhicule et ces états intermédiaires qui s'appellent, si je ne me trompe pas, les bardos?
C'est très différent. Les véhicules, c'est un ensemble de textes doctrinaux et de pratiques qui vous mènent d'un point à un autre. C'est-à-dire, ils vous mènent du point où vous êtes confus et harassé par le samsara vers ce qu'on appelle l'éveil. Donc, chaque véhicule va avoir une manière de vous amener à l'éveil, plus ou moins longue.
Et pas les bardos, ce ne sont pas des états intermédiaires, les bardos?
Non, les bardos, c'est les états de l'esprit que l'esprit traverse à la fois dans la vie et dans la mort.
D'accord.
Rêves sont un bardo.
Ah oui, entendu.
Oui.
Alors maintenant, ce que je voudrais comprendre aussi, c'est la notion de tantra. Parce que dire que le bouddhisme est tantrique,
oui,
c'est surtout comme cela qu'on le définit au Tibet.
Oui.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
D'abord, il n'y a pas une base... les tantras s'installent sur la base du Mahayana, du grand véhicule.
Mais qu'est-ce que c'est un tantra?
Alors, tantra, ça veut dire la trame qui tient toute chose. C'est-à-dire, en fait, d'un point de vue absolu, on estime que la trame qui est derrière toutes les manifestations de phénomènes, c'est une trame de clair-lumière.
Attendez, je comprends pas. Les tantras, ce ne sont pas des textes, alors?
Si, c'est aussi des textes.
Ah, c'est aussi
des textes théoriques qui expliquent cela, mais la vue des tantras, c'est un filet, en quelque sorte, de clair-lumière qui sous-tend toute chose. Et qu'il s'agit de découvrir pour s'immerger dans cette dimension qui est la dimension absolue, mais qui, quand elle est mal comprise, cette trame de clair-lumière, devient la manifestation phénoménale ordinaire. Sous le coup de l'ignorance, on interprète les phénomènes d'une manière complètement erronée.
Et qu'est-ce que c'est qu'un mantra?
Alors, déjà, les tantras permettent de transformer l'esprit pour retrouver cette clair-lumière. Et c'est ça qui est le plus important, puisque la clair-lumière, quand elle est stabilisée, c'est l'éveil. Et les mantras, c'est juste un moyen, parmi d'autres, avec la visualisation, avec les pratiques yogiques dont on évoquait tout à l'heure l'existence, pour pouvoir parvenir à cette clair-lumière le plus rapidement possible. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec les bardos, parce que nous vivons à l'heure actuelle le bardo de cette vie, dans lequel on peut pratiquer la méditation, qui est un autre bardo qui s'insère dans la vie, puis on va préparer de cette manière-là la mort, qui est un moment extrêmement important, on va retrouver cette claire lumière fondamentale, mais il faut l'avoir reconnue pendant cette vie.
Juste un dernier point sur les tantras. Beaucoup de religions indiennes, védiques, c'est-à-dire qui célèbrent le Veda et qui ne sont donc pas du bouddhisme.
Non.
Sont tantriques aussi. La notion de tantra n'est pas spécifique au bouddhisme, si?
Non, il y a des tantras hindous qui sont nés à peu près vers la même époque, c'est-à-dire vers le 5e
Donc les tantras, ce sont des textes ou bien des chaînes et des liens qui existent dans la nature?
Ce sont des textes et c'est une vision de l'existence et du rapport entre le relatif et l'absolu, d'une façon à transformer en fait notre vision erronée, en quelque sorte illusionnée, en vision éveillée.
Mais en Inde aussi, les religions, y compris le bouddhisme d'ailleurs, peuvent être qualifiées de tantriques. Ou bien c'est vraiment
certaines,
tibétain.
Oui, certaines expressions de l'hindouisme, par exemple dans le shivaïsme, il y a beaucoup de tantrisme. Et ça se rapproche d'ailleurs d'un certain nombre d'éléments qui peuvent exister également dans le bouddhisme tantrique.
Alors on va revenir à la notion
Mais pas avec la même vue.
Oui, à la notion de véhicule, à la notion de bardo, c'est, on est au cœur de la, de la pensée bouddhiste. Et alors, au 8e, 9e siècle après Jésus-Christ, un moment très important donc, de l'arrivée du bouddhisme au Tibet, il y a un auteur que vous jugez majeur et que vous avez traduit, Philippe Cornu, qui s'appelle, alors moi je vais le dire comme ça, hein, Padmasambhava, comment vous vous dites ?
Oui, Padmasambhava.
Voilà.
Guru Rinpoche, pour les Tibétains, le maître très précieux.
Et il a écrit un livre des morts tibétains. Écoutez cet extrait.
Bardo, d'abord, signifie transition, ou signifie passage. Bar veut dire entre, et do veut dire deux, un entre-deux.
Lama Denis Tundrup.
Cette notion d'entre-deux, de transition, est fondamentale dans les enseignements du Dharma. Car sa perspective de l'existence est dynamique et cyclique. C'est-à-dire, les choses ne sont pas figées et statiques, mais nous sommes tout le temps en devenir, nous sommes tout le temps en transition. Il y a différents passages au travers desquels l'on passe constamment. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, des passants, toujours en train de cheminer. Et toujours en train d'aller d'un état de transition à un autre état de transition, c'est-à-dire d'un bardo à un autre bardo. Tudul, la deuxième partie du mot, signifie la libération par l'écoute. Entendu que l'écoute de ces enseignements, et encore plus leur entente, leur compréhension, amène une libération de la conscience dans les différents états au travers desquels elle passe. Chaque état de conscience est en fait une vie à laquelle on naît, puis qui disparaît, à laquelle on meurt, et de naissance en mort, d'état de conscience en état de conscience, se déroule le cycle de la vie, le cycle des bardos.
Donc ça, c'était un commentaire du bardo tel qu'il est pensé, notamment par Padmasambhava. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe Cornus. C'était un extrait de La matinée des autres sur France Culture en 1990. Mais avant de vous réentendre, voici l'extrait du livre des morts tibétains de cet auteur, Padmasambhava, que vous jugez très important et que vous avez traduit.
Merveille. Cet esprit unique qui embrasse la totalité du samsara et du nirvana est votre nature originelle, et cependant vous ne l'avez pas reconnu. Présentons donc cette nature selon la méthode d'accès par les trois considérations. Dans cette claire vacuité où les pensées passées se sont évanouies sans trace aucune, dans cette fraîcheur où les pensées à venir ne sont pas encore nées, à l'instant où s'établit le mode naturel sans fabrication, voici cette conscience qui, à ce moment, est en elle-même tout ordinaire. Et dès que vous tournez votre regard nu sur vous-même, ce regard qui n'a rien à voir débouche sur la clarté, la présence dans son évidence, nue et vive. C'est une pure vacuité qui n'a été créée d'aucune manière, un état inaltéré où clarté et vide sont indivisibles. Ni éternel, puisque rien n'y existe vraiment, ni néant, puisqu'il est clair et vif. Il ne se réduit pas à l'un, étant présent et limpide en toute chose, et n'est pas le multiple, car tout y est d'une saveur unique dans l'inséparabilité. Telle est cette présence intrinsèque, et elle n'est rien d'autre que cela.
Et c'était la très jolie voix d'Anaïs Isbert qui était donc prêtée à cet important penseur bouddhiste, Padmasambhava, Livre des morts tibétains, qui est un écrit des 8e et 9e siècles après Jésus-Christ. Je vous écoute, Philippe Cornu, pour commenter notamment la notion de vacuité Qu'est-ce que c'est la vacuité pour un
c'est
bouddhiste?
L'absence d'existence en soi et par soi. Le fait qu'aucun phénomène n'est existant par lui-même. C'est-à-dire on n'a pas d'ousia comme chez Aristote. Il n'y a pas de substance. Il n'y a pas de substance. Il y a du devenir. Il y a
donc
de l'écoulement.
On en a parlé hier, il n'y a pas de soi fixe.
Voilà.
Notamment.
Voilà. Donc on est plus dans un domaine héraclitéen. Hein, si on peut se rapprocher de ça.
Ça aussi, on l'a évoqué.
Tout
hier.
À fait.
Alors, et donc là, il n'y a pas de spécificité tibétaine sur ce point. Au contraire, il y a une radicalisation.
De toute façon, les Tibétains vont suivre tout à fait la doxa indienne. Mm-hmm. Mais après, ils vont évidemment commenter énormément les textes. Mm-hmm. Hein. Et il y a beaucoup d'auteurs. Bon, Padmasambhava, ce qui est intéressant, c'est que c'est un auteur tantrique, c'est Edzogchen, la grande perfection, qui a un autre système beaucoup plus, disons, apophatique, je dirais. Il transmet cela au Tibet, mais il cache des textes en prévision de certaines persécutions entre les deux phases de transmission.
Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire, il va y avoir une domination chinoise qui va arriver un peu plus tard.
Beaucoup plus tard. Non, là c'est entre Tibétains que ça va forcément se passer correctement. Mais le livre des morts tibétains, le Bardo Tedol en réalité, c'est-à-dire la libération par l'écoute dans l'état intermédiaire, c'est ça le vrai titre, c'est un texte qui a été caché et redécouvert qu'au XIVe siècle. Hein? Donc, c'est aussi ce qu'on appelle la tradition des thermas, des textes trésors, qui est extrêmement importante dans l'école des anciens, l'école des Nyingmapa, qui est apparue au 8e siècle.
Alors, quelle est la différence entre la première diffusion, entre 7e et 9e siècle, et qu'est-ce qui est différent dans la deuxième diffusion, qui a lieu, si j'ai bien compris, à partir du début du 11e siècle
10-11e, oui.
Oui, c'est ça. Oui. Quelle est la différence?
Alors, la différence, tout simplement, c'est que les tantras qui arrivent au Tibet au 8e, c'est au 8e que ça se passe, la première diffusion. C'est pas vraiment...
C'est pas avant, d'accord.
Peu, disons, peu. Non, c'est 8e, 8e, 9e, mais il y a une interruption par l'assassinat d'un empereur qui fait que la dynastie s'effondre et qu'il y a une persécution des monastères. Les monastères avaient pris trop d'importance politique. Mmh. Et il y a donc une période de flottement pendant un siècle. Et ensuite, il y a à nouveau des rois, notamment du Ladakh, de la région qui est maintenant le Ladakh, qui vont envoyer des traducteurs en Inde pour récupérer de nouveaux textes. Et donc, il y a à la fois les lignées qui sont issues de yogis de la première diffusion, qui vont constituer l'école ancienne, Nyingmapa, à cette époque-là, au 11e, et les autres écoles qui vont se former à partir des nouveaux textes qui sont ramenés de l'Inde par ces nouveaux traducteurs.
Et à nouveau, il va y avoir ensuite un reflux, du moins une difficulté. Bon, domination mongole au XIIIe siècle, puis chinoise avec la dynastie Ming de 1368 à 1644. Oui. Là, on a quand même...
Ça s'est très bien passé, parce que les Tibétains ont eu la géniale idée d'envoyer un de leurs maîtres, Sakyapandita, pour convertir le Khan mongol, ce qui a évité la destruction du Tibet. Et du coup, les Sakyapa, qui sont donc cette école, a dominé le Tibet pendant plus d'un siècle et demi.
En tout cas,
c'est une école tibétaine.
Oui, de 1643 à 1959, nous avons une très longue période de théocratie autonome. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour employer
non,
ce terme?
Non, pas le mot théocratie, c'est complètement ridicule.
Pourquoi?
D'abord parce que c'est pas un dieu, le Dalai Lama n'est pas un dieu.
C'est une figure religieuse.
C'est une figure religieuse, mais ce n'est pas au sens propre du terme comme un pharaon.
Qu'est-ce que ça veut dire Dalai Lama?
Dalai Lama, ça veut dire océan de sagesse, plus ou moins, c'est un terme mongol à l'origine, parce que c'est précisément les Mongols qui ont reconnu les premiers Dalai Lama.
Et quel est le statut politique du Dalai? Comment est-il nommé?
Il a été nommé, c'est le 5e Dalai Lama qui a été nommé, le premier, donc au 17e siècle. C'est lui d'ailleurs qui a fait ériger le Potala, le fameux Potala. Et c'est un très grand maître spirituel en même temps. Mais c'est les Mongols qui l'ont mis sur le trône. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs écoles qui étaient en concurrence, et c'est l'école des Gelugpa, des vertueux, qui a été mise au pouvoir par les Mongols à travers le 5e Dalai Lama. Mais le 5e Dalai Lama n'était pas pour autant sectaire, et c'est quelqu'un qui a beaucoup favorisé d'autres écoles.
Mais c'est un chef politique?
Alors, il a un rôle, effectivement, disons, d'exécutif et de politique, mais qui est aussi relayé par un... par des ministères. Il y a le Kachak, qui est à moitié laïque, à moitié monastique, qui est donc son cabinet ministériel, en quelque sorte. Mais disons que, évidemment, c'est un personnage qui est avant tout un personnage quand même considéré spirituellement. Mais évidemment, c'est quand même le chef de l'État.
Bon,
le chef de l'État.
Isabelle Kalinowski, il est vrai que dans la pensée politique et la théorisation politique occidentale, nous avons moins de mal à dire que s'il y a un si lien profond entre une verticalité religieuse et une verticalité politique, les deux coïncident. C'est bien ce que vient nous expliquer Philippe Cornu à propos du Dalai Lama, c'est un chef religieux et politique. Eh bien, ça s'appelle une théocratie. Pour Weber, par exemple, ça ne fait pas long d'un doute. Il doit être embêté, Weber, parce qu'en même temps, c'est une religion tellement monastique. Il est rare que les religions monastiques prennent le pouvoir politique. Souvent, elles sont plus retirées du monde. Peut-être est-ce un point aveugle de la pensée de Max Weber sur le bouddhisme.
Un des points qui retiennent particulièrement l'attention de Weber, c'est la question de la transmission du pouvoir, alors que ce soit le pouvoir religieux ou le pouvoir politique. Weber se concentre dans les quelques pages qu'il a consacrées au bouddhisme tibétain, une dizaine de pages dans Hindouisme et bouddhisme, sur entre autres sur la question de la transmission charismatique. Et il insiste sur le fait que, en fait, les religions, enfin le bouddhisme tibétain se construit notamment avec des figures qui sont des grandes figures charismatiques. Et ça, c'est un des points qui, en tant que sociologue, l'intéresse au Tibet. Donc ici, la question de la transmission charismatique, c'est une question qui peut être à la fois étudiée d'un point de vue politique et d'un point de vue religieux. Ça peut, voilà. Donc ça, c'est un des points qui l'intéresse dans le cas du Tibet.
Et Philippe Cornu, comment vous... C'est vrai que c'est difficile à conceptualiser. Vous avez d'un côté une vie monastique extraordinaire, qui presque par définition est coupée du monde, et de l'autre, un vrai pouvoir politique. Il y a une alliance étonnante dans l'Empire tibétain.
Oui, il ne faut pas voir ça de façon coupée, séparée. Le Dalai Lama est un maître spirituel. Avant tout. Et il est considéré pour sa sagesse. Beaucoup de Dalai Lama, enfin beaucoup, il n'y en a pas eu tant que ça finalement. Vous savez, le pouvoir des Dalai Lama, c'est juste la fin de l'histoire du Tibet sur quelques siècles. Avant, il n'y avait pas de Dalai Lama. Mais le Dalai Lama, c'est avant tout un moine. Et c'est quelqu'un qui écrit des traités. Très savant. L'actuel Dalai Lama, si vous l'aviez écouté quand il faisait des séjours, disons, de quelques jours, où il commentait des textes de philosophie bouddhiste, tibétaine ou indienne. C'est quelqu'un d'extrêmement érudit. Et c'est un grand pratiquant.
Est-ce que vous voulez dire par là que c'est justement l'exil, la persécution politique dans des conditions complexes, en 1959, il y a un soulèvement populaire qui sera réprimé
dans le sang
par les Chinois,
tout à fait.
Avec lesquels pourtant il y avait eu un accord en 1951, bon, ça se passe très mal.
Oh oui, très très mal.
Très mal.
De toute façon, c'était un accord...
Pipé, direz-vous.
Oui, totalement. Ouais.
Et là, il fuit en Inde. Alors, d'abord, c'est très intéressant, c'est l'Inde, c'est de là que le bouddhisme provient.
Tout à fait.
Et c'est là qu'il retourne. Mais c'est à ce moment-là que le Dalai Lama... plus que jamais, peut-être, est devenu un représentant politique à cause de l'exil.
Il n'a jamais eu un rôle tel que celui du 14e Dalai Lama avant. Il devient une personnalité internationale qui travaille pour la cause tibétaine. Donc, à la fois pour une cause qui est liée justement à l'occupation du Tibet par les Chinois, parce que c'est véritablement une occupation. Les Chinois n'ont pas demandé l'avis aux Tibétains. C'est une annexion, pure et simple. Et d'autre part, je veux dire... il a ce rôle spirituel. Et d'ailleurs, les Occidentaux l'ont invité partout dans le monde, mais essentiellement pour des transmissions spirituelles.
Allez. Entendu. Je vous écoute, Isabelle Kalinowski. Je crois que vous voulez ajouter un commentaire.
Oui, je crois que pour Weber, en tout cas, un des points qui, disons, nourrit le lien qui s'établit entre l'élément religieux et l'élément politique au Tibet, c'est la question de l'usage de l'écrit. En fait, Weber insiste sur le fait que certaines conversions de souverains tibétains, mais aussi ailleurs, ont été motivées, ces conversions au bouddhisme, par le fait que ça permettait en fait d'introduire parfois des alphabets, d'introduire aussi une présence très forte de l'écrit. Et Weber en fait insiste sur le fait que en Inde en tout cas au départ, la transition entre l'hindouisme et le bouddhisme se fait beaucoup autour de l'importance de l'écrit pour le bouddhisme. L'hindouisme lui est plus une religion de la transmission orale. Il y a aussi des textes, mais ce sont des textes qui sont transmis oralement.
Et c'est d'autant plus troublant ce que vous dites que le Bouddha lui-même, mort vers 400 quelque chose avant Jésus-Christ, le Bouddha après lequel est né le bouddhisme, n'a rien écrit, lui. C'est par la suite, et surtout au Tibet, n'est-ce pas, Isabelle Kalinowski, que l'écrit va devenir le point fort du bouddhisme par rapport à d'autres écoles védiques hindouistes.
Oui, alors un des points sur lesquels insiste Weber, c'est voilà le rôle de l'écrit dans les monastères. En fait, c'est ces moines qui s'installent finalement dans des lieux après avoir été longtemps migrants. Pratiquent, comme on l'a dit, la traduction, l'enseignement des traductions, le commentaire, etc. Il y a toute une activité qui tourne autour de l'écrit. Et Weber insiste en sociologue sur le fait que c'est ce prestige de l'écrit en fait qui est intéressant. Aussi d'un point de vue politique parce que il rejaillit en fait il donne de la légitimité aussi au pouvoir politique et pour lui la conversion de pas mal de souverains au bouddhisme peut-être même déjà Ashoka en Inde est liée à cet élément, c'était un élément pour lui très important.
Vous êtes d'accord Philippe Cornu?
Alors l'écrit est très important mais accompagné toujours par la transmission orale.
Et les
parce
pratiques
qu'il y a des lignées de transmission.
Non,
d'abord des lignées de transmission. Si vous recevez un texte, vous le recevez, vous recevez l'autorisation orale d'utiliser le texte, et vous avez toutes les instructions pour comprendre le texte. Il y a toute une herméneutique derrière. S'il n'y a pas ça, un écrit n'est pas interprétable. Donc, c'est toujours l'oral qui va être extrêmement important dans la transmission. Lire des textes, tout le monde peut lire des textes, c'est pas pour autant qu'on les comprend. On les comprend grâce à l'explication, l'interprétation orale.
Alors
et ça, ça veut dire des lignées spirituelles qui sont ininterrompues. Ça, c'est extrêmement important au Tibet. Les lignées.
Donc de maître à disciple.
De maître à disciple, voilà.
Et pas par famille, on est d'accord. C'est vraiment aussi, une élection
aussi des disciples. Aussi par famille, pour les yogis, mais qui peuvent avoir des disciples, effectivement, non familiaux, et qui vont former aussi des lignées.
Est-ce que le concept de lignée permet quand même l'idée, en quelque sorte démocratique, que n'importe qui peut devenir un grand yogi, un grand moine?
Oui, il y a des bergers qui sont devenus des grands maîtres spirituels et qui ont atteint vraiment des éveils dans leur existence.
Et quel est le critère du fait qu'on est un grand bouddhiste, un grand éveillé? Comment ça se voit? Comment ça se consacre?
Ça peut se voir dans certains... d'abord au moment de la mort, tout simplement, parce que au moment... Si par exemple il y a la crémation et qu'il reste des reliques dans les cendres, ça montre que la personne était réalisée.
C'est quoi les reliques?
Des reliques, c'est des reliques, c'est-à-dire par exemple des os qui se sont transformés en perles de couleur, des choses comme ça qu'on retrouve dans les cendres. Il y a également des phénomènes atmosphériques qui accompagnent la crémation, des arcs-en-ciel, etc., y compris la nuit. Des parfums qui peuvent se répandre. Enfin, il y a tous les signes de la sainteté qu'on peut retrouver ailleurs. Et puis, d'autre part, il y a aussi des maîtres dans la grande perfection qui font un corps d'arc-en-ciel, c'est-à-dire qui ne laissent pas de corps physique au moment de leur mort.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de morceaux d'eau, excusez-moi d'être un peu concrète, après la crémation?
Ah non, là, c'est pas une crémation. Ils se mettent dans une tente pendant 7 jours, et pendant 7 jours, leur corps, petit à petit, rétrécit et disparaît.
Et donc ça, c'est validé par la communauté monastique.
Oui, et puis il y a des témoignages.
Y compris les perles dans les cendres, c'est validé.
Tout à fait, tout à fait. Et puis tout ça est mis dans des stupas, dans des reliquaires, des monuments reliquaires qui sont après, évidemment, pour la vénération des fidèles. Mais ça, c'est quelque chose, effectivement, d'extrêmement important. Oui.
Alors, vous parliez de texte et de transmission orale, l'importance des deux aspects. On va lire un autre grand penseur bouddhiste que vous avez traduit. Longshenpa, c'est comme ça qu'on dit?
Oui, c'est un peu le maître Eckhart du Tibet.
14e siècle?
Ah oui, tout à fait. Grand siècle.
Vous l'avez traduit et publié au Seuil. La liberté naturelle de l'esprit, c'est le titre du livre d'où est extrait ce texte.
Illusion du sujet et de l'objet, concept d'apparence et de vacuité, samsara et nirvana, bonheur et souffrance, sont comme des beaux rêves et des cauchemars. Dans l'instant même où ils apparaissent, leur nature est sans complication. Et les circonstances de création et de cessation qui en résultent sont semblables à un songe, une illusion magique, un mirage, une ville dans les airs, un écho ou un reflet sans réalité. L'ignorant croit à la réalité de l'apparence. La considérant comme un phénomène permanent, il lui plaque la notion du moi et du soi. Mais elle disparaît comme la jeune fille créée par magie, qui s'évanouit dès qu'on la touche.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Alors, pour les profanes ou novices dont je fais partie, on croit reconnaître dans ce texte des choses que vous avez dites et que les spécialistes d'hier du bouddhisme indien ont dit aussi, c'est-à-dire la mobilité, il n'y a rien de fixe, il n'y a pas de moi substantiel. C'est héraclitéen, avez-vous dit encore aujourd'hui, pour faire un lien avec un philosophe présocratique occidental, grec. Qu'y a-t-il d'autre à entendre dans ce texte ou d'autres? Pourquoi Longshenpa est un penseur important au XIVe siècle?
Déjà, son nom veut dire « vaste espace qui embrasse tout ». C'est quand même tout un programme. En fait, c'est un maître du Dzogchen, de la grande perfection, qui est un système qui est au-delà du tantrisme.
Alors là, je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce que c'est au-delà du tantrisme, puisque vous m'avez dit que fondamentalement, le bouddhisme est tantrique, en tout cas au Tibet.
Oui, fondamentalement, mais les tantras sont une voie de transformation. On transforme la colère en clarté. On transforme le désir en compassion, etc. C'est-à-dire qu'on travaille sur les matériaux de notre esprit et on les transforme dans leur véritable nature qui est sagesse. Mais dans le Dzogchen, on considère que tout est parfait depuis toujours. Et qu'il faut retrouver cette perfection de toujours au sein de son esprit par un travail de méditation fondamentale qui va directement au-delà de l'esprit ordinaire vers la nature de l'esprit fondamental qui donc est vacuité, luminosité. Oui. Et c'est ça dont nous, on a complètement dévié par notre ignorance.
Nous,
c'est ce qu'explique nous, les êtres sensibles, ordinaires, qui sommes perdus dans ce monde. Et ben, en fait, c'est tout simplement parce que nous avons attribué aux manifestations de ce monde une réalité qu'elles n'ont pas. Et donc, en réalité, tout est parfait, mais sans aucune espèce de construction, en quelque sorte phénoménal, substantiel, comme nous on le croit. Et en réalité, nous avons créé ce monde, en quelque sorte, d'une manière beaucoup plus fondamentale que ce qu'on peut penser. C'est tout provient de notre esprit. Mais tout peut se résorber également dans notre esprit. Et la résorption de cet esprit, c'est ce qu'on appelle la libération naturelle.
Donc c'est le degré supérieur de la sagesse bouddhique, d'atteindre cette vision de la perfection du monde par-delà les souffrances que l'on a dépassées.
Parce que si l'on voit effectivement la trame de clair-lumière qui est derrière tous les phénomènes, effectivement, ces phénomènes n'ont pas de substantialité, n'ont pas de réalité réifiée comme on le croit. Et cette liberté, elle nous permet également d'agir pour les autres.
Comment le bouddhisme pense-t-il le rapport aux autres?
Parce que cette trame de la nature de l'esprit qui est vide et lumineuse, il en jaillit en fait un sentiment de compassion pour les êtres qui n'ont pas compris cette réalité.
Donc c'est la compassion qui est le lien fondamental aux autres.
C'est extrêmement important. Alors, on a pris le mot compassion parce que le mot amour était pris. Mmh. Hein, les traducteurs ont fait avec ce qu'ils pouvaient parce que l'amour, c'est devenu une connotation plus chrétienne. Mais en réalité, la compassion, c'est une compassion active et c'est pas seulement pâtir avec, évidemment. C'est au contraire donner l'enseignement et pour aider les êtres à s'émanciper.
Et dans un empire bouddhique, oui. Est-ce que ça a des conséquences politiques, la compassion bouddhique? Est-ce que ça produit des politiques?
Alors non, parce
vis-à-vis
que...
Vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des personnes qui souffrent, etc.
Oui et non. Oui, parce que ça crée une ambiance, effectivement. Au Tibet, il y avait eu également des épisodes brutaux, hein, de toute façon, il ne faut pas se cacher ça. Non. Parce que le bouddhisme s'adresse essentiellement à la voie spirituelle des individus.
La voie contemplative, dirais-je.
Oui, bien entendu. C'est pas une religion qui crée des structures sociales en tant que telles. Bien sûr, il y a les monastères qui sont des institutions, mais si vous voulez, c'est pas, on va pas réjouir, on va pas créer des lois, on crée pas un canon comme dans le christianisme, vous voyez, ou une charia. Non, pas du tout. C'est pas le but du bouddhisme. Le but du bouddhisme, c'est que chaque individu prenne son chemin en main et le mène jusqu'à sa libération.
Arrive-t-il que des moines bouddhiques respectés critiquent le pouvoir en place pour être insuffisamment dans la compassion?
Ah, c'est pas pour ça, mais c'est pour d'autres raisons, purement politiques souvent, malheureusement. Parce que c'est, vous savez, là où il y a de l'homme, il y a toujours des problèmes.
Oui, alors donc, c'est toujours le paradoxe, il n'y a pas de conséquences politiques immédiates du bouddhisme, mais enfin, l'institution que représente un pouvoir monacal malgré monastique...
Avant, il y avait le pouvoir impérial, mais quand il s'est effondré, ce sont les monastères qui ont pris le pouvoir.
Il s'agit d'un chant diphonique des moines bouddhistes de Gyuto, on dit comme
Gyuto,
vous dites, voilà, au Tibet. Diphonique, est-ce qu'il y a une quête de quelque chose à travers ce type de son?
Là, c'est une technique de son qui est utilisée dans des récitations de liturgie tantrique.
Mais le son est une dimension importante de
Oui, puisque les mantras, c'est du son, précisément. Un mantra, c'est une formule sonore qui va ouvrir les canaux subtils en vous et qui va permettre effectivement d'accéder à des expériences spirituelles.
Merci beaucoup Philippe Cornu et Isabelle Kalinowski pour vos analyses ce matin sur le bouddhisme tibétain. Les références de vos travaux sont précisées sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment.
Comment savoir ce qui est régulier ? Le concept de règle et même l'image de l'objet que l'on appelle en français une règle a quelque chose d'ambivalent et ouvre sur des controverses infinies. La règle est un objet apparemment neutre pour mesurer quelque chose dans un objet extérieur en fonction d'un critère objectif, par exemple la distance ou le poids, mais c'est aussi un instrument de pouvoir, un instrument qui permet de corriger et de contrôler l'objet lui-même en fonction d'une norme et de l'imposer finalement à cet objet, et on est toujours dans une controverse apparemment infinie entre les tenants d'une règle objective qu'il faut imposer pour raison de la nature de la chose ou d'une règle arbitraire qu'il faut critiquer en fonction du pouvoir qu'on impose aux choses. Et cela traverse aussi nos dimensions politiques les plus collectives et aujourd'hui les mécanismes d'information, par exemple, dans nos sociétés. Mais entre ces différents sens de la notion de règle, il y en a un troisième, un peu plus discret, qui semble pouvoir être une réponse minimale et peut-être insuffisante d'ailleurs à cette antinomie de la question de la règle, de la mesure objective ou imposée. Cet usage est très courant dans toutes nos langues et qui distingue aussi la règle de la norme ou de la loi. Cet usage, c'est le sens de la règle au sens de la répétition. La règle, c'est aussi ce qui se répète. La régularité, c'est ce qui revient à heure fixe. Et ce serait finalement la répétition qui serait dans la chose elle-même la source de l'objectivité de la règle. On appellerait régulier à la fois ce qui se répète objectivement et ce que l'on vient mesurer. On mesure alors des écarts par rapport à ce qui se répète et on appelle irrégulier ce qui n'est pas conforme, non pas à une norme naturelle essentielle ni à une norme arbitraire et politique, mais à la répétition la plus fréquente finalement d'un phénomène donné. Ce sens de la régularité est très profond, mais est-il suffisant? On a souvent recours pour le réfléchir, pour l'étudier, à la philosophie de l'empiriste David Hume. Et en effet, Hume est un des grands penseurs de la répétition et de la régularité, et aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui la régulation. Et Léonore Lejallet, spécialiste de Hume, avait écrit il y a déjà bien longtemps, près de 25 ans, un petit livre admirable intitulé « Hume et la régulation morale » en s'inspirant de son maître, le regretté Didier Deleuil, spécialiste de la méconnue philosophie politique de Hume, puisque Hume est d'abord un philosophe de l'expérience. Hume est celui qui nous dit « il n'y a pas de nécessité à ce que le soleil se lève le matin, il pourrait ne pas se lever demain matin, mais de façon régulière, j'ai noté par répétition qu'il s'est toujours levé. Il y a donc une régularité objective et on peut transporter cela à la régularité morale. » Et Léonore Lejallet montre pourtant qu'il y a un petit os là-dedans. Il faut en effet, pour parler de régulation morale, il faut non seulement une régularité des phénomènes moraux, par exemple de la recherche de l'utilité, qui est la source chez Hume de la morale. Les humains, par exemple, cherchent régulièrement leur bien de telle ou telle façon et évitent le mal de telle ou telle façon. Mais il faut aussi une régularité du jugement moral, de l'empathie, de la justice, du sentiment moral. Alors on s'aperçoit que la réputation, la régularité ne suffit pas forcément à fonder la régulation. Peut-être faut-il toujours aller plus loin, peut-être y a-t-il toujours une norme vitale cachée même dans la répétition la plus objective. Ce n'est pas seulement parce que les choses se répètent qu'elles sont régulières et ce n'est pas seulement parce qu'elles ont un écart qu'elles sont jugées irrégulières.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Grégory Wallon. Merci à l'équipe d'ICI Béarn Bigorre à Pau d'avoir accueilli ce matin Isabelle Kalinowski dans nos studios. ICI donc, nouveau nom de France Bleu. Cette émission a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Antoine Ravon qui était dans notre équipe au moment de cette programmation, Carla Michel, Chaïma Giboire, Nassim El Kabli, et je souhaite la bienvenue à Armance Bourquin, notre nouvelle stagiaire. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.